Psycho. 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous, c'est Axelle Jacquemont. Vaincre la morosité, chasser le spleen pour une vie meilleure. C'est notre émission de ce soir dans Parlons Psycho. Journée raccourcie, ciel bas, fête de fin d'année terminée et la perspective des longs mois d'hiver qui s'annoncent. Chaque année, janvier marque pour certains d'entre nous le début d'une période propice à la morosité. Une saison longue qui pousse souvent à la remise en question. Si certains prennent au contraire janvier comme un nouveau départ plein de résolutions pour une meilleure année, d'autres évoquent le début d'une longue déprime qui peut conduire à la dépression, un phénomène en forte croissance dans les années 2000. Alors comment combattre ce sentiment de tristesse, de déprime, voire de vide existentiel qui jalonne parfois nos vies? J'ai deux invités avec moi ce soir pour évoquer ce sentiment difficile. Noémie Foulon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coach de vie personnelle, professionnelle et parentale depuis 2 ans.
Tout à fait.
Sur Villefranche et le Beaujolais. Et nous avons également par téléphone Julie Sabat. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Julie, donc vous êtes auteure du blog êtreoptimiste.fr, le blog lifestyle positif. Tout est dit.
C'est ça.
Dans le titre. Merci d'être avec nous également ce soir. Alors, c'est avec vous justement, Julie, que je voudrais démarrer. Je voudrais savoir du coup, parce que je pense que tout le monde est curieux de savoir, ce qui vous a poussé à créer un blog sur ce thème. Est-ce que ce sont des soucis personnels, un climat de morosité peut-être que vous avez constaté autour de vous, dans votre entourage ?
Alors, ce blog, je l'ai créé en 2014. Au départ, j'avoue, c'était dans le cadre d'une formation web marketing. Donc, c'était simplement pour apprendre à manipuler un petit peu WordPress. Et on était libre de choisir le thème qui nous inspirait le plus. Et en fait, moi, j'ai longtemps été très pessimiste. Donc, à cette période-là, ça faisait déjà quelques années que j'avais essayé de changer ma façon de voir les choses. Parce que c'est l'année de mes 30 ans, en fait, que j'ai eu un gros déclic en 2011. Et j'en ai juste eu marre, en fait, justement, de me victimiser. Et c'est ce qui m'a poussée, donc, à changer ma façon de voir les choses. J'avais vraiment envie de devenir plus positive. Donc, comme j'étais dans cette mouvance, je me suis dit, pourquoi pas créer un blog pour partager un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. Et puis, pourquoi pas aider d'autres personnes qui ont peut-être envie, comme moi, de voir la vie d'une façon plus optimiste. Et puis partager avec eux mes petites astuces, mes lectures, mes découvertes sur le sujet. Voilà comment le blog du coup a vu le jour en 2014.
Il y en a beaucoup des blogs de ce type-là, Julie. C'est quelque chose qui se développe énormément. Alors le blog d'une manière générale, l'activité de blogging, mais ce thème-là justement, c'est vraiment quelque chose qui est demandé. Finalement.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais fait mes petites recherches, j'avais pas trouvé, moi en tout cas, quelque chose qui me correspondait complètement. Maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai créé le blog, j'avoue que j'ai vu effectivement plein de sites de développement personnel et autres blogs. Mais bon, tant mieux dans un sens, hein, ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus... qui intéresse les gens, quoi, je veux dire, et c'est tant mieux si les gens ont de devenir plus positifs. Au contraire, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus maintenant, je le constate, oui, effectivement, que quand j'avais créé le blog.
Alors, le vôtre est très coloré, hein, j'invite vivement nos auditeurs à aller le visiter. Il est donc effectivement très gai, comme est l'objectif du blog, mais il a aussi la particularité, non pas de parler que d'un état, une façon d'être ou de vivre, mais il y a aussi, vous partagez des astuces, des choses un petit peu pratiques pour le quotidien. On va y revenir tout à l'heure, hein, vous nous expliquerez justement ce que l'on peut y trouver. Et
D'accord.
Donc, Noémie, donc vous venez alors d'un autre univers. Hein, au tout début,
oui.
Vous étiez dans le secteur de la restauration, hôtellerie.
C'est
un
ça.
Univers, donc dans le management, plus précisément.
Voilà, dans le management et le marketing hôtelier, je crée des sites internet pour des grandes maisons étoilées et puis pour des grands hôtels également.
Et donc, vous m'avez confié avoir ressenti, donc, à un moment donné dans votre métier, vous aussi, le besoin d'aider les gens à améliorer leur vie, leurs relations aux autres. Qu'est-ce que vous avez constaté au fil des années sur la nature humaine ? D'où vient cette morosité, ce manque d'envie chez les personnes qui viennent vous trouver ?
Alors, cette morosité, elle vient surtout du fait que les gens, ils en ont ras-le-bol. Aujourd'hui, les gens sont fatigués, ils sont pressurisés de tous les côtés. Il faut réussir sa vie familiale, personnelle, professionnelle. Il faut être excellent partout. Il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Il faut être heureux. Il faut avoir des enfants qui vont bien. C'est un ras-le-bol complet. Donc, les gens, au bout d'un moment, ils ont une telle pression de tous les côtés qu'effectivement, il y a ce côté. Je n'en peux plus. Je craque. Voilà.
En fait, il faut être parfait aujourd'hui.
Il y a effectivement cette perfection, notamment, Julie en parlait, le secteur du bien-être, il a considérablement évolué. Aujourd'hui, c'est un marché qui est devenu en expansion, ça explose de tous les côtés. Donc, il y a aussi cette pression d'aujourd'hui, je dois être heureux. Mais je dois être heureux quand rien ne va dans sa vie ou qu'il y a X et X éléments qui vous bloquent. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Voilà.
Et alors vous, Noémie, qu'est-ce qui différencie votre travail de celui d'une psychologue ?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses qui nous différencient. Le coach, il va travailler du présent, du concret, pour aller vers un futur présent. Un futur proche, pardon, excusez-moi. Donc, contrairement au psy, qui lui va travailler plutôt sur le passé pour un mieux vivre au quotidien, sur le présent. Le coach, concrètement, il est sur aujourd'hui, comment je vais faire pour aller mieux demain.
Donc voilà. On s'appuie sur des éléments pratiques.
Exactement.
On fait un débriefing finalement de tout ce que l'on... des mauvaises habitudes peut-être qu'on a de...
Alors le coaching, c'est quelque chose qui va être très concret. Ça va se dérouler en 4 grandes étapes. Ces grandes étapes, ça passe comment ? Par une première étape où on va faire ce qu'on appelle l'état présent. C'est-à-dire que vous allez venir voir le coach, vous allez venir me voir. On va poser. Vous allez poser vos valises. Voilà, aujourd'hui, moi, qui je suis ? Qu'est-ce que je porte comme bagage ? Ensuite, il y a cette deuxième étape, c'est qu'est-ce que je veux ? Ok, vous venez me voir, mais du coup, pourquoi ? Vers quel objectif on va aller ? Cette troisième étape, ensuite, qui va être... de comprendre pourquoi aujourd'hui votre objectif il n'est pas atteint. Quels sont ces blocages ? Et enfin, cette quatrième étape, et là on se régale, c'est-à-dire qu'on va lever tous les points de blocage pour atteindre cet objectif.
D'accord. Et alors, il y a une étude qui a été publiée par l'Agence sanitaire de santé publique en France qui a permis de constater qu'en 2017, près d'un adulte de 18 à 75 ans sur 10 a déclaré avoir vécu un épisode dépressif. Donc là, on va plus loin que l'amorosité.
Bien sûr.
Qui aurait eu un retentissement sur ses activités habituelles. En concordance avec d'autres études, on a appris que c'était essentiellement, surtout le sexe féminin qui était victime de morosité. C'est favorisé également par l'inactivité professionnelle, un faible niveau de revenus, des ruptures conjugales et globalement c'est en dessous de 45 ans, ce qui est quand même un profil assez précis. Est-ce que ça correspond au type de personnes que vous accueillez chez vous ?
Alors je reçois autant de femmes que d'hommes. Après c'est vrai qu'on a cette pression, notamment chez les femmes, de réussir, de faire mieux, d'être meilleure et donc de compenser en fait tous ces schémas un petit peu stéréotypés de la société. Effectivement, nous les femmes, on gagne moins, faut qu'on fasse plus, faut qu'on soit performante au boulot, à la maison, avec son mari, qu'on soit une bonne amie. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse pression du côté des femmes, en effet, oui.
Donc les femmes sont les plus exposées à la morosité, c'est ce qu'on a vu. Ce n'est pas un cliché et on sait que, donc là vous venez de le résumer, hein, les préoccupations des femmes sont liées à l'harmonie de leurs relations familiales, sociales, également leur épanouissement professionnel. Julie Sabat, vous, qu'est-ce que vous préconisez comme trucs et astuces au quotidien à toutes ces femmes?
Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Noémie parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la charge mentale des femmes et c'est clairement une réalité, quoi. Enfin, moi-même, j'ai que 2 enfants et parfois je me sens totalement débordée. Même si je veux pas dire que les hommes sont complètement absents, hein, mais c'est vrai que les femmes, on a tendance à vouloir prendre beaucoup, beaucoup de choses en charge et puis du coup, on peut se retrouver avec une grosse pression puis énormément de fatigue. Donc, ce que j'ai envie de dire, bah, déjà, tout simplement, c'est de prendre du temps pour soi pour commencer, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais tendance à oublier de faire, hein, parce qu'on est pris dans le quotidien, on a les enfants à s'occuper, les devoirs, les sorties, enfin leurs activités aussi extrascolaires, etc. Et on oublie finalement de se recentrer un petit peu sur soi. Donc, c'est le premier conseil que je pourrais donner, de vraiment, même si c'est un tout petit peu de temps, mais d'essayer de faire en sorte que ce soit régulier et chaque semaine, prendre un petit peu de temps pour soi. Alors, ça peut être une sortie entre copines, ça ça peut être, je sais pas moi, même ne serait-ce que faire une petite sieste, se faire une petite manucure, se payer un massage, je sais pas, mais vraiment impérativement, faut réussir à prendre ce temps pour soi, parce que c'est aussi une question du respect qu'on s'accorde, quoi, finalement. Et je pense que c'est ça qui est vraiment, vraiment important pour éviter d'atteindre des niveaux de fatigue aussi vraiment importants. Et puis malheureusement, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage à qui c'est arrivé, aller parfois jusqu'au burn-out complet. Et voilà, donc je pense qu'il faut savoir prendre du recul quand il est encore temps. Et puis... et puis savoir se poser, quoi, se recentrer sur soi.
Alors, ce n'est pas toujours évident, effectivement, parce que l'amorosité, on l'a dit, peut se transformer en déprime passagère. Bon, après, ça peut encore aller plus loin avec de la dépression. On dit que oui. Quand il y a déprime passagère, souvent, la personne perd tout intérêt, toute envie. Donc là, ça va quand même assez loin. C'est-à-dire que même si elle a eu idée pendant quelques minutes d'appeler une amie ou d'aller au cinéma ou de prendre du temps pour elle, là, il y a vraiment un repli sur soi. La personne se réfugie finalement chez elle et finalement rentre un peu dans une spirale où elle ne voit plus personne. Donc là, est-ce qu'au-delà des petites choses du quotidien, Noémie, vous pouvez nous dire comment rééduquer finalement ce sentiment de déprime, de rejet finalement de vie sociale.
Alors je crois que ce qui est important dans ce cas-là, c'est de lever une culpabilité, parce qu'on a cette culpabilité de ne pas être assez performant, pas être assez heureux. Donc le premier point, en fait, ce qu'on va vraiment travailler en coaching, c'est de se reconnecter à ses émotions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me ressource? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Déjà, de reposer ses bases, c'est un travail énorme. Bien au-delà de mettre en place des actions, c'est redéfinir un petit peu qui on est. Et ça, je pense que c'est c'est la base du travail pour les personnes qui sont dans ce cas-là et qui sont dans cette morosité, dans ce spleen constant. C'est savoir se poser. Voilà, qui je suis.
Et est-ce que vous avez alors des petites choses à nous donner, comme par exemple peut-être écrire des choses positives sur une feuille, ou bien peut-être bannir de son vocabulaire des expressions, des phrases un peu négatives? On parle beaucoup en ce moment de communication positive ou de relations bienveillantes.
Tout à fait. Il y a un exercice que j'aime beaucoup donner, que je trouve très, très concret, justement sur le type de message que l'on envoie. Généralement, on va parler à quelqu'un en lui disant excuse-moi, je voulais pas t'embêter, mais est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que notre cerveau, en fait, reçoit comme message dans ces cas-là? Il reçoit la négation. Le cerveau, en fait, il n'entend pas la négation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre que quelqu'un l'embête. Donc, dans ces cas-là, c'est de relire vos SMS, vos mails, et de vous demander comment je peux envoyer un message positif. Et donc, c'est vraiment d'aller, de mener une espèce de quête à la négativité pour retransformer tous vos messages. Et ça, de le voir concrètement, visuellement, et puis même d'écrire, ça va permettre au cerveau de se moduler autrement et justement de passer par la positive. Donc ça, c'est un très bon exercice.
D'accord. Et dans les relations humaines, il y a parfois des personnes dont on dit qu'elles sont un petit peu toxiques, c'est-à-dire que le simple fait de les rencontrer, de leur parler, de les voir, vous font hérisser les poils et vous font vous sentir mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller à l'encontre et finalement se rapprocher de cette personne et se dire « Allez, j'y vais avec mon plus beau sourire, j'essaye d'y mettre du mien, le plus possible. » Ou bien est-ce qu'au contraire, je fuis ces personnes qui me... Même si elles ne me persécutent pas, elles ne me font rien de mal, mais me gênent, me rendent triste.
Alors dans ces cas-là, il faut être à l'aise avec soi. Donc il faut s'écouter. Qu'est-ce qui fait que là, je n'ai pas envie d'aller chez cette personne? Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, tout simplement. Alors après, si c'est plus compliqué, si c'est votre N plus 1, votre N plus 2 et qu'il y a des malaises et d'autres choses comme ça, il va être intéressant de se poser la question de savoir de ce que ça déclenche chez vous et pourquoi ça déclenche ça. Voilà. Mais globalement, j'ai envie de vous dire, protégez-vous. Voilà, protégez-vous et mettez de la distance avec ce qui est néfaste.
Julie Sabas, qu'il y a des personnes, donc bien évidemment vous avez un forum, il y a des personnes qui viennent publier des messages ou commenter vos différents articles. Il y a des personnes qui se posent ce type de questions?
Oui. Mais justement, quand on parlait de des personnes qui s'isolent, j'allais dire aussi que l'entourage est très important dans ces cas-là aussi, et de faire très attention. Je suis tout à fait d'accord avec Noémie à ce niveau-là aussi. Tout simplement, si on se sent pas bien, moi c'est ce que je conseille aussi. D'ailleurs, j'ai un article qui est parmi les plus lus à ce sujet sur les relations toxiques. Vraiment, si vous le sentez pas, mais ne voyez pas ces personnes, quoi. C'est quelque chose qui revient très fréquemment. Moi, j'ai un petit questionnaire justement pour m'orienter un petit peu sur les sujets de mes articles, pour voir ce qui intéresse mes lecteurs. Et il y en a beaucoup qui finalement se sentent pas bien à cause du négatif des autres, quoi. C'est même pas tant qu'il se passe des choses négatives dans leur vie ou que voilà, il y a des choses qui les tracassent ou qui les stressent, mais il y en a énormément qui me parlent des gens qui sont envieux ou des gens qui vont critiquer à tout bout de champ, des gens qui vont essayer de casser leurs ambitions, enfin. Donc c'est très 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 important aussi de bien savoir s'entourer parce que malheureusement parfois même dans le cercle amical ou le cercle familial, et on peut avoir des personnes qui vont pas être très très bénéfiques pour nous, quoi. Donc après c'est une question de ressenti. Je suis tout à fait d'accord avec Noémie, quoi. Si on sent qu'il y a un malaise avec quelqu'un, et s'il y a moyen de discuter avec cette personne, qu'on la sent ouverte, etc., qu'on peut-être arranger des choses. Bon, voilà, je ne dis pas non plus de couper les ponts avec tout le monde, mais si on sent qu'il n'y a pas d'évolution possible, de discussion possible, essayer d'espacer les visites avec ces personnes, quoi. Enfin, il faut vraiment prendre du recul et de la distance. C'est très, très important, quoi. C'est un des conseils que je donne le plus fréquemment. Et c'est quelque chose qui revient très souvent parmi les problèmes de mes lecteurs, je confirme.
Alors, dans la vie professionnelle, pas simple, parce que là, vous êtes, vous travaillez avec des personnes qui ne peuvent pas disparaître, changer de bureau comme vous le souhaiteriez. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Je vous pose la question à toutes les deux, chacune à votre tour. Noémie ?
Alors, ce que dit Julie, en fait, ça me fait penser effectivement beaucoup de personnes ont un besoin de reconnaissance, notamment dans le travail. Ce besoin de reconnaissance, c'est d'être reconnu, que quelqu'un nous valorise, que quelqu'un nous dise « je suis fier de toi ». Ce besoin de reconnaissance, ça peut être très pervers parce que du coup, ça va créer justement cette dépendance à l'autre. Et à partir du moment où on va sentir cette dépendance, c'est là que l'autre aussi peut aller nous manipuler, je dis ça entre guillemets, parce qu'il peut
sentir cette faiblesse.
Voilà, on peut le sentir. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si vous sentez que, oui, vous avez besoin d'être reconnu, essayez de vous reconnaître vous-même. Parce qu'en fait, on attend toujours que ce besoin soit comblé par l'autre. Mais ce qui est génial, c'est qu'on apprend en coaching que ce besoin, en fait, on peut le combler nous-mêmes. Et ça, notamment, je travaille avec les parents pour leur apprendre ça pour leurs enfants. C'est de dire aux parents, non pas « je suis fière de toi », mais dire à son enfant « tu peux être fière de toi avec tout le travail que tu as accompli. Voilà où tu en es, ça c'est grâce à toi. » Donc ce besoin de reconnaissance, il faut faire très attention à ça, bien travailler à se reconnaître soi-même. Après, pour tout ce qui est effectivement gérer les conflits avec des N+1, des N+2, avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise, c'est d'aller creuser, voilà. Pourquoi je ne suis pas à l'aise avec cette personne? Et si vous êtes tout le temps en contact avec elle, c'est de mettre en place un petit plan d'action pour vous protéger. C'est-à-dire de la rencontrer dans un endroit où vous êtes à l'aise, par exemple. C'est-à-dire si vous êtes très mal à l'aise d'aller dans son bureau, et demandez de vous retrouver dans un lieu neutre, par exemple.
Voilà. Vers la machine à café.
Exactement, voilà, tout à fait.
Et alors, pour chasser vraiment le spleen, hein, tel qu'on l'entend, parce que donc ce spleen peut en effet venir de relations, d'un manque de confiance, relations un peu difficiles avec une tierce personne ou plusieurs personnes, est-ce qu'il faut simplement penser au bonheur, d'après vous, pour chasser le spleen? Je vais demander à Julie, du coup, qui pourra poursuivre ce que venait de dire Noémie juste avant.
Oui, de ce que j'en vois de par mon expérience, en fait, c'est vraiment de réussir, en fait, à changer sa façon de percevoir les choses. C'est vraiment ça, en fait. On peut être très négatif, mais si on s'entraîne, en fait, de la même façon que si on n'est pas sportif et qu'on reprend le sport, on peut muscler un petit peu son cerveau, si je puis dire. Enfin, l'entraîner, en tout cas, à voir les choses d'un point de vue positif. Donc, c'est ça qui est vraiment important, parce qu'en fait, finalement, la différence entre quelqu'un qui va être pessimiste et quelqu'un qui aura un tempérament plus optimiste, c'est vraiment que la façon de percevoir les événements qui vivent chaque jour, quoi. Un même événement pourrait être perçu totalement différemment en fonction de la façon dont on appréhende, dont on interprète plutôt l'événement dans notre tête. Donc c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il faut travailler, parce que dans la vie, bah, malheureusement, on n'est pas toujours préservé, hein. On peut avoir des sources de stress tous les jours, comme on l'a dit en tout début d'émission. On a de plus en plus de pression, donc de toute façon, il faut réussir à avoir cette capacité, bah, à prendre du recul et puis à avoir le côté positif, même si, a priori, notre journée ne l'est pas, quoi. Donc ça, il y a un petit exercice, moi, que j'aime bien. C'est celui qui consiste, en fait, en fin de journée, à se refaire un petit peu la journée qui vient de s'écouler, et puis à trouver au moins trois choses qui nous ont fait sourire, ou trois choses qui nous ont apporté du bonheur, enfin trois choses positives, et prendre cette habitude, bah, de le faire si possible tous les jours, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Et puis en fait, on s'aperçoit que finalement tous les jours, même si on a le sentiment que la journée était vraiment extrêmement négative, on va trouver très très facilement trois choses, même peut-être plus, quatre, cinq. Et puis on peut aller plus loin en tenant carrément un carnet de gratitude, ça s'appelle. Et puis chaque semaine ou chaque jour, vous pouvez noter toutes les petites choses qui ont apporté un peu de bonheur ou de positif dans vos journées. Et à force, bah voilà, on va s'entraîner à voir vraiment, déjà avoir de la gratitude, quoi, pour la vie et pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Et puis aussi, à se focaliser sur ce qui est positif et non plus sur ce qui est négatif. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté de faire ce petit exercice. Et puis maintenant, voilà, quand il m'arrive quelque chose a priori de négatif, j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Ok, il y a cette chose qui se présente, cet obstacle n'était pas prévu, ça va me faire prendre du retard, ou je vais devoir faire les choses différemment, comment est-ce que je m'adapte, mais pas me laisser bloquer par ça, quoi. Trouver des ressources en nous pour pouvoir surmonter ces obstacles, et puis pas se laisser miner ou pas arrêter un projet juste parce que voilà, il y a une petite pierre sur le chemin. Donc voilà, j'encourage tout le monde à faire ce petit exercice. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire même avec ses enfants, en fait. Si vous avez des enfants qui ont tendance à avoir le verre à moitié vide, et bien c'est un petit exercice que vous pouvez faire ensemble, même en fin de journée, voilà.
Et alors dans la vie professionnelle, hein, pour poursuivre ce qu'on disait juste avant, donc ça me paraît essentiel, hein, tout ce que vous venez de nous dire. Il y a un proverbe qui dit qu'il faudrait rire au moins 5 minutes par jour. J'ai envie de dire que dans la vie professionnelle, avec des personnes qu'on n'a pas choisies, hein, qui travaillent autour de nous, hein, quand on parlait peut-être de tension tout à l'heure, ça peut être déjà une arme fatale de faire rire, finalement, de détendre l'atmosphère, de relativiser. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, mais après, effectivement, hein, c'est vrai que dans le cadre du travail, bon, moi, j'ai plus de problèmes parce que je travaille de chez moi, donc c'est sûr que, mais bon, je l'ai vécu par le passé, et c'est vrai qu'après, il faut faire avec les différents caractères, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, on n'a pas toujours les mêmes façons de fonctionner, je crois que ce qui est surtout important aussi dans le travail, c'est de pas rentrer, parce que bon, moi j'ai une expérience comme ça, c'était pas terrible, il y avait vraiment une ambiance assez difficile, de pas rentrer dans tout ce qui est ragot aussi, médisance, justement parler de la machine à café, éviter de se mettre dans des ambiances comme ça, quoi. Je crois qu'on est là pour faire notre travail, après on peut avoir des affinités avec certains collègues, si c'est le cas tant mieux, et puis les personnes avec qui on est obligé de travailler en équipe ou quoi. Bon, je crois qu'après, c'est comme tout. On s'adapte,
pas.
Mais on vit pas avec eux. On n'est pas obligé de faire des restos ou des sorties. Enfin, voilà, je pense qu'il faut réussir à, une fois la journée finie, c'est peut-être ça qui est difficile à faire pour certains, de finir la journée et puis le soir de passer à autre chose et pas ruminer ce qu'il y a pu se dire ou ce qu'il y a pu se passer dans la journée aussi. Mais j'avais fait un atelier, ça m'a fait penser il y a très longtemps, et j'avais trouvé cette réflexion intéressante. C'était une psychogénéalogiste, pardon, qui soulevait le fait que souvent on rejouait dans l'entreprise quelque chose qui n'avait pas été complètement réglé en famille. Donc, donc moi, personnellement, ça m'avait fait réfléchir que souvent, les collègues, on peut rejouer avec les collègues des choses qu'on n'a pas forcément fini avec des frères et sœurs, qu'on peut rejouer avec le patron ou un responsable ou une responsable, quelque chose qu'on n'a pas terminé avec la mère ou le père. Donc, ça parlera à qui ça parlera, mais moi, à l'époque, ça m'avait parlé. Donc, il y a des choses qui se rejouent aussi, comme ça, dans le cadre de l'entreprise et qui sont peut-être de l'ordre du personnel aussi. Donc, pour ça, il faut toujours voir quand même le côté positif, parce que ça permet de travailler certaines choses qui ne sont pas encore résolues aussi, peut-être.
Tout à fait. Donc, Noémie Foulon, vous êtes d'accord avec ce que disait Julie? Est-ce que donc il suffit de rire pour parfois désamorcer un conflit ou chasser justement cette morosité?
Alors
cette
effectivement, il faut une certaine bonne humeur. Après, il faut se poser la question. Au bout d'un moment, le travail qu'on fait, on le fait pourquoi? Est-ce qu'on le fait par passion? Est-ce que on le fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on le fait pour partir en vacances ensuite? À partir du moment où vous allez au travail tous les matins avec la boule au ventre, je pense que là, il faut se poser la question. Pourquoi je fais ce travail? Donc, c'est être cohérent avec soi. Est-ce que je suis prêt à souffrir ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que j'ai envie de m'apporter autre chose? Et je pense que c'est un petit peu la clé. Alors certes, c'est une... Sortir de l'inconnu, c'est... on préfère toujours garder ses peurs. C'est les peurs du quotidien plutôt que de découvrir l'inconnu. Sauf que l'inconnu, s'il peut vous permettre d'être heureux et de vous réveiller tous les matins avec la patate, voilà. C'est cette question qu'il faut se poser. Exactement. Ouais.
Alors pour terminer, j'aimerais que vous me disiez chacune une citation, une phrase qui vous fait avancer et qui, selon vous, peut aider à se lever heureux le matin. Vous avez réfléchi, Noémie, à ça?
Alors moi, j'ai ma phrase fétiche, ouais. C'est « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est une phrase de Voltaire. Pourquoi cette phrase? Quand on sait aujourd'hui l'importance de notre pensée sur notre corps et les souffrances que ça peut déclencher d'un point de vue physique, pour moi, c'est une mise en action hyper concrète. Si je suis heureux, je serai en bonne santé, donc faisons-nous du bien.
Très bien. Julie, qu'est-ce que vous auriez comme citation à nous conseiller?
Bah, j'en ai énormément, moi, mais si je dois en choisir une, j'aime beaucoup celle de Gandhi. C'est « Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours ». Pourquoi? Parce que je crois que c'est très très important, en fait, de pas perdre de vue, même si c'est pas très gai hein, au départ, mais qu'on peut effectivement mourir demain. Donc vivre vraiment dans cet instant présent. Et voilà, moi personnellement, bon, c'est pas gai non plus, mais j'ai perdu trois amis qui avaient tous entre 30 et 40 ans en très peu de temps, donc ça m'a bien remis les idées en place à ce niveau-là. Et il faut vraiment profiter à fond, quoi. Quand on garde bien conscience de ça, eh ben, on va savourer vraiment les moments qu'on passe avec ceux qu'on aime. On va essayer justement de faire en sorte de passer du temps avec des gens qui sont pas toxiques, mais avec des gens qui nous font du bien. De faire chaque jour, peut-être, voilà, changer de travail, faire quelque chose qui est en accord avec nos valeurs, quelque chose qui nous plaît vraiment. Enfin, vraiment garder en tête cette idée que oui, effectivement, on a un certain nombre d'années sur Terre, donc autant l'employer du mieux possible.
On a le droit
d'être. Une phrase positive aussi. Voilà.
On a le droit d'être heureux.
En tout cas, ça me motive.
Et que l'on redevienne acteur de nos vies. Je crois que c'est vraiment ça.
C'est essentiel, c'est la clé. Est-ce que vous avez un livre ou une chanson pour vraiment terminer, chacune à nous donner, qui vous mette de bonne humeur? Noémie?
Alors la chanson, moi je vous dirais Happy de Pharrell, je pense que c'est la chanson. Et comme livre, un très bon livre en fait pour se mettre dans le développement personnel, c'est une quête, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle. C'est un peu le premier livre que je recommanderais aux personnes qui sont dans ce déclenchement de changement.
Julie? Qu'est-ce que vous avez comme suggestion?
J'en ai lu un dernièrement qui s'appelle Mon coaching coloré, que j'ai trouvé très sympathique, pareil, parce qu'il est très, très bien adapté aussi pour ceux qui débutent dans le développement personnel. Donc, il est très sympa. Il y a des tests, des pierres vitothérapies, des huiles essentielles, des élixirs floraux, même des recettes de cuisine. Enfin bon, tout ce qui peut nous aider au quotidien pour amener plus de bonheur dans nos vies. Et puis en musique, j'en ai pas une non plus en particulier. Par contre, c'est un truc qui est très bien à faire aussi, c'est de se faire sa petite playlist personnelle de quoi. J'invite tout le monde à le faire, de faire un CD ou j'en sais rien sur son compte YouTube. En tout cas, de mettre toutes les musiques qui nous mettent la patate justement. Et comme ça, quand on a un petit coup de blues, et ben
c'est
on peut se dépasser en boucle et ça fait beaucoup de bien.
Très bien. Ben écoutez, merci,
merci
à
beaucoup.
Toutes les deux. Merci Noémie Foulon. Merci Julie Sabat. Pour tous vos conseils avisés, pour ces astuces que vous nous avez livrées. La quête du bonheur est une vraie philosophie, mais vous nous avez montré qu'elle était à portée de tout le monde. Je vous souhaite à toutes les deux une très belle année 2019, remplie de joie, ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Calade. Et je vous donne rendez-vous début février pour un nouveau numéro de Parlons Psycho. Bonne soirée.
Calade.